Un Marceau bien accompagné, c'est tellement mieux.
10h01, salut, bon matin. Bienvenue sur les ondes de Boulevard 101. Mon nom c'est Yann Marceau, je t'accompagne jusqu'à 14h. Dans la première partie, c'est avec Audrey Pinchot. Salut.
Bon matin.
T'as de l'air dangereusement en forme.
Ah mon Dieu, je suis encore sur un high de ce qu'on a vécu hier, de voir les auditeurs, la soirée, c'était tellement trippant. On dirait que je suis de bonne humeur.
Avec les Iceman.
Ouais.
C'est le genre de soirée qu'on peut pas vraiment inventer. En fait, on organise une soirée avec les auditeurs, puis on sait pas trop comment ça va se dérouler. Puis moi, j'arrive à l'aréna, puis moi, tu sais que j'aime bien l'aviation, je suis un pilote. Puis je connais pas mal tous les passionnés de pilotes, là, d'avion, qui sont pilotes autour de moi. Puis là, je vois Réal Turgeon. Réal Turgeon, pour ceux qui le connaissent pas, c'est un ancien snowbird. C'est pilote d'avion.
Oui.
Il faisait de l'avion acrobatique. Là. Et là, je le vois jusqu'à ce que vous faites ici, M. Turgeon. Il dit, moi, je sais pas ce que je fais ici. Là. Dis-moi au départ, j'allais prendre une bière chez un de mes chums.
C'est le maire de Saint-Isidore.
Mais c'est le maire de Saint-Isidore. Et là, je dis, ouais, mais vous venez pour le match? Il dit, ben ouais, là, c'est tous des gars que j'ai coachés dans le temps. Là. Mais moi, je viens juste prendre une bière. Là.
Ils l'ont piégé.
Ah oui?
Ils l'ont piégé, puis le maire a embarqué. Il a fait un appel. Il a dit, parfait, j'embarque dans l'autobus jaune, je m'en viens. Il a fini par faire la mise au jeu. Probablement le partisan dans les estrades le plus crinqué.
Oui, le partisan numéro un. C'est un gars qui est très apprécié en Beauce. Puis c'était contre les Iceman.
Oui.
Les Iceman de la Beauce, puis ça a été une super belle soirée. Salutations à tous les auditeurs qui se sont présentés.
Absolument.
J'en ai rencontré quelques-uns. Moi, j'avais deux matchs de hockey dans la même soirée. Hein. J'en avais un à 19h avec vous autres, puis après ça, à 22h15, là, j'étais déhockey ici à Chauveau. Là.
C'est pour ça que t'es parti. Je me suis dit, crime, me semble qu'ils se défilent.
Je t'allais dire salut aux gars dans la chambre. J'étais allé en haut, j'allais dire salut à tout le monde, puis après ça, ben, je m'en allais à mon autre game de hockey.
Game.
Mais cela dit, j'étais tombé en amour avec les Iceman de Beauce. Ils nous ont demandé une revanche.
Oui. J'en ai parlé au grand patron ce matin. J'ai profité de sa présence dans les locaux pour dire clin d'œil. Tu sais, sur le club social, on pourrait se prendre un autobus monter en Beauce. Il a dit, il avait l'air de penser qu'il allait y réfléchir.
Ça, les gars dans l'autobus auraient pris 3,24.
Mais le pire, c'est que
c'est une légende.
Non, mais j'ai pas de misère à y croire. Ils sont arrivés très festifs. Je m'occupais des médias sociaux hier encore pour la station. Puis ils ont défilé le tapis rouge avec leurs pantoufles, tricotées de grand-maman.
Ouais.
Puis écoute, petite bière à la main, vraiment crinquée avec leur crâne. Là, il était quelque chose, honnêtement. Ces gars-là ont pensé à tout hier.
Ouais.
Tu sais, t'es parti un peu plus tôt, mais il y a un moment dans la soirée en haut après le match où il y avait un cadeau pour leur coach, qui était Jeff Fortin.
Uh-huh.
Un cadeau pour l'équipe de Boulevard qui était un trophée, même si on a perdu. Un trophée fait à la main avec un vinyle puis des vieilles cassettes collées en... Écoute, je te le montrerai tantôt, là, c'était écœurant ce qu'ils ont fait là. Ils nous ont fabriqué un trophée. Ils vous ont amené des œufs aussi, de ce que j'ai compris.
Oui, ils nous ont amené ça dans la chambre.
Oui, recette du goaler. Ils ont pensé à tout. Puis il y avait vraiment une fratrie quand ils regardaient. Puis eux autres, ils font des sorties puis des affaires ensemble à l'année longue.
Ouais,
qu'ils
nous comptaient. C'est des chums d'enfance.
Oui. Une grosse gang de chums de gars tissés serrés. Honnêtement, les voir aller, là, j'ai capoté hier. Là. Je me disais, crime, ça me prend des chums de même autour de moi avec qui je vais grandir puis vieillir.
Ben, je te le souhaite. Salutations à Alexis, qui était l'arbitre.
Oui.
Qui a fait un très bon travail.
Il a bien fait ça.
Oui,
j'ai pas tout vu.
Salutations à Karine Thériault aussi, qui est la photographe professionnelle, qui a fait les photos qui sont disponibles sur la page de Boulevard 101. Donc, allez voir ça. Puis pour ceux qui veulent savoir le résultat final, comment ça finit?
Ça finit 4-3 pour
4-3.
Les Iceman.
On a été en fusillade, puis ça a été la 11e ou la 12e fusillade qui a déterminé.
Stressant.
Le gagne.
C'était vraiment stressant. Pour vrai, là, tu sais, vous autres, vous étiez sur la glace, probablement bien concentrés, là. Mais je pense que c'est la première année que dans les estrades, on sentait une grosse fébrilité. Tout le monde était vraiment accroché à son banc.
Ouais. Je veux pas trop exagérer, mais je vais régulièrement au rempart, là. Puis la foule est bruyante au rempart. Puis je me demande tout le temps si les gars qui sont sur la glace entendent la foule. Puis moi, je peux te confirmer qu'on vous entendait. Puis des fois, on se demandait ce qui se passait.
C'est bien hot, mais on était crinqués.
Ouais, ouais. Il y a une fois où Coach Gilbert, là, qui est notre directeur des ventes ici, s'est planté. Puis on vous a tout entendu rire. Fait que là, on était bien contents pour Coach Gilbert. Mais ça a été un peu difficile pour lui au niveau émotif. Là, quand,
ça veut juste dire qu'on était attentifs.
Quand vous avez rigolé. Ouais, exact. Donc, merci d'être là. Bon vendredi, tout le monde. Il y en a qui sont contents que la semaine finisse. Moi, curieusement, mon corps a de la misère à suivre, mais ma tête semble être là à 100%. Donc,
tu as joué deux shape. Games hier. Oui. Là. Donne-toi une chance. Là.
Oui, j'ai plus 20 ans.
Repos en fin de semaine, c'est ça?
Non, mais en fait, j'ai des matchs de hockey en fin de semaine aussi. Bon. J'en ai un à soir. Les gars, ils commencent leur tournoi. Leur série, en fait, sur
OK, tu joues pas, là. Tu t'en vas regarder.
Moi, je joue ce soir, 18h50.
Tabarnouche.
Non, on n'arrête pas. On n'arrête pas. Parce que quand t'arrêtes, c'est là que tu meurs.
Ah ouais, c'est... OK, bon. Exact. Écoute, je prends des notes.
Hey, on parlait de légende tantôt. On en a une autre légende qui est dans les studios de Boulevard ce matin. C'est un gars que j'ai connu... moi, j'étais très jeune. Il était très jeune aussi. Il a commencé les médias à 7 ans. Je le regardais à la télé. C'était un gars de sport. C'est Yvan Martineau qui est le porte-parole du Salon Vélo de Québec. Salut, monsieur Yvan Martineau.
Hey, bonjour. Donc, tu me rappelles des souvenirs. Là.
Ben oui!
Je me fais tellement souvent dire... Hey, j'étais à l'université... Je regardais ton émission de fin de soirée à TQS et tout. C'est la vie, c'est rempli de bons souvenirs, puis j'espère qu'il s'en est pour toi aussi.
Vraiment? Tu as été dans les médias pendant combien d'années?
Ben écoute, je suis à semi-retraite, j'ai encore quelques petits mandats, mais je n'ai pas calculé. Là, mais sûrement.
Tu as commencé à quel âge?
Ben j'ai commencé, j'avais 21 ans. Okay. Pour mon petit journal local. Ensuite, ça a été CKVL à Montréal.
Ouais.
De fil en aiguille. Puis à l'époque, il n'y avait pas beaucoup de stations de télé. Moi, ce qui a lancé ma carrière, c'était vraiment TQS.
Oui.
TQS qui a fait faillite au bout de 25 ans, qui est devenu nouveau maintenant, là. Mais TQS, c'est là que, sans limite, les Pierre Brassard, Ghislain Tachereau se sont fait connaître. Il y avait Surprise avec Marcel Béliveau, qui a été une émission incroyable. Alain Dumas, Patricia Paquin avec l'émission Flash. Imaginez, à l'époque, c'était la première émission culturelle de 30 minutes à tous les jours.
Ouais.
Puis nous, à TQS, souvent, on se fait dire « Hey, t'es l'ancien de RDS ». Non. Avant même RDS, il y avait TQS, puis on était la première station qui présentait un bulletin de sport de 30 minutes à tous les soirs.
Mais voyons
puis
donc.
Moi, je suivais avec mon émission de ligne ouverte, tribune téléphonique, où je recevais des artistes puis des joueurs de hockey et tout. Puis on parlait de sport avec les auditeurs, justement, en prenant les appels. Ça a été fantastique.
Sans trop vous lancer de fleurs, là, j'ai eu l'impression que TQS a réinventé la télé au Québec parce qu'il n'y avait pas les mêmes moyens que les autres réseaux. Puis nous, ici, on voyait les salles de nouvelles travailler avec une nouvelle façon d'amener des bulletins de nouvelles où on parlait directement à la caméra, on se promenait en parlant à la caméra tout en allant vers un autre journaliste. Pour nous autres, c'était la première fois qu'on voyait ça, parce que sinon, c'était juste une caméra fixe avec quelqu'un qui faisait la lecture des nouvelles, puis qu'après ça, nous envoyait sur un reportage. TQS, vous étiez très innovateur en ce sens.
On était tous des jeunes qui s'étaient fait dire partout, il n'y a pas d'emploi, tout d'un coup... Oh, une nouvelle station qui ouvre. Et effectivement, TQS n'avait pas les moyens d'aller chercher les vedettes un peu partout ailleurs. Alors, c'était des jeunes. Puis l'énergie des jeunes, ça a été comme milieu de travail, là, ça a été fantastique.
Ça
a été
fantastique.
Ah, c'était stimulant. Puis bon, vous parliez de votre match de hockey, là. Bien, j'organisais les week-ends... On partait, on jouait une dizaine de parties de hockey par hiver, puis une dizaine de parties de balle. On allait en tournée, puis on se promenait dans les régions. On était proche du monde. Tu sais, on partait en autobus là, avec des Guillaume Lemaitre-Thivierge, Hugo Girard, toute la gang de Sans Limites, Patricia Paquin. On avait toujours 5 femmes sur la glace contre 5 femmes de l'équipe adverse.
Ah, c'est cool.
À l'époque, le hockey féminin était beaucoup moins populaire. Fait que souvent, ça donnait des scènes assez, assez drôles, assez cocasses, parce que c'était pas des joueuses de hockey. Puis même dans nos joueurs de hockey, il y en a plusieurs qui n'avaient pas nécessairement joué dans leur vie. Mais bon, c'était les têtes d'affiche de TQS et c'est ce que les gens voulaient voir.
Ouais.
Puis, c'était merveilleux.
T'as-tu toujours trippé sur le sport?
Toujours.
Est-ce que c'est ça que tu voulais faire de ta vie, c'est-à-dire couvrir le sport?
Ah oui. Ben, écoute, le premier rêve, c'est évidemment de jouer dans la Ligue nationale. Là.
Comme toutes mais les petits gars, là.
Ben oui, mais j'avais zéro talent. Sauf que moi, la veille de mes matchs de hockey, je dormais pas. J'étais trop nerveux, j'avais tellement hâte.
Ah,
ça a toujours été comme ça. La passion, elle s'est jamais démentie. Puis j'ai eu une bonne étoile parce que, écoute... Les gens qui, comme toi, peut-être, se souviennent de mes premières années, j'étais tellement nerveux en ondes. Je disais « Bonsoir, mesdames et messieurs. Le Canadien, ce soir, gagne. » Tu sais, puis comment se fait qu'on ne m'a pas sorti des ondes, là, tu sais? J'ai tellement eu une bonne étoile, probablement que mes patrons voyaient la passion qui m'animait
le
et tout.
Le potentiel.
Puis j'étais vaillant, j'aimais ça. Puis, bref, ça a été une très, très belle carrière que j'ai eue. Moi, je suis infiniment reconnaissant, surtout faire carrière en télé quand toute l'adolescence, je me faisais appeler tarte aux fraises tellement je faisais de l'acné. Là,
ah oui!
Puis à l'époque, à Radio-Canada, quand j'ai commencé, hein, c'était tout des messieurs, tu sais, des
propres,
des
bien
messieurs
habillé.
Très propres, bien habillés, puis très beaux surtout, là. Alors.
Mais t'es beau garçon aussi.
Ah, merci. T'es tellement gentil.
On voit
merci.
Que t'es plus la première rosée, là, mais beau garçon pareil.
Le champ de fraises est derrière.
J'aime ça. Mais c'est ça. En tout cas, bref.
T'as fait TQS, t'as fait Radio-Canada, puis t'avais fait RDS.
Non, j'ai pas fait RDS. Après, lorsque TQS a fait faillite, là, j'ai tourné ma grande passion. Moi, ça a toujours été le plein air au sens large.
Ouais.
Alors là, j'ai tourné des séries vélo à travers la France, à travers l'Amérique, les États-Unis. Puis j'ai fait 4 autres saisons ensuite à travers le Québec avec Culture Vélo. Ça, c'était à Évasion, TVA, TVA Sport.
Okay, fait TVA
que c'est
Sport.
Là que j'ai poursuivi. J'ai été chroniqueur aussi... au Journal de Montréal, chroniqueur plein air. Puis les dernières années de radio que j'ai fait, c'était avec Paul Oud à Montréal. J'étais chroniqueur plein air jusqu'à ce que Paul Oud perde son emploi au 98.5 à Cogeco à Montréal. Là.
Quel homme brillant.
Ah, mais...
C'est un cerveau qu'on perd.
Tout le monde dit ça, mais moi, ce que je retiens, c'est l'homme. La gentillesse. Mes chroniques étaient son dernier 15 minutes d'émission là, du vendredi. Là, il y avait toute sa semaine dans le corps. Et j'avais l'impression, quand j'entrais en studio, qu'il avait eu juste ça à faire dans la journée, se préparer pour la chronique. Il avait lu les plans de chronique, il s'était intéressé. Il
faisait sentir important les gens.
Ah, c'était fabuleux. Oui. Moi, c'est ce que je retiens, c'est l'homme.
On parle à son frère Pierre Aude cet après-midi, comme tous les vendredis. Je pense que je vais m'assurer d'y passer le message.
Un autre chic type, d'ailleurs.
Oui, absolument. Pierre. Un vrai.
Et comment le vélo est arrivé dans ta passion? Tes porte-parole du Salon Vélo de Québec, c'est arrivé quand, ça, le vélo?
Bien, quand on était jeune, toute la parenté Martineau, on partait en camping. Mais on n'était pas saisonnier. On se déplaçait d'un endroit à l'autre. Alors, quand tu as 10, 12, 13 ans... Ta liberté, c'est d'enfourcher ton vélo puis d'aller découvrir les environs du camping, puis le village ou la région qui t'entoure. Ensuite de ça, mon premier emploi, ça a été de livrer des commandes pour une épicerie à vélo.
Tu devais avoir la grosse paire de cuisses.
Ah non, pas assez pour non. Ça, là. Ben, disons que ça devait quand même faire travailler les muscles un petit peu.
Moi, je crois que Audrey, elle aime ça, les cuisses d'homme.
Ah oui?
Ils sont cachés en dessous de la table, fait que j'ai pas encore pu passer mes commentaires.
J'ai déjà remarqué.
Comme vous avez dit, je suis pas de la première rosée, puis elle l'est encore.
Mais c'est vrai, on dirait qu'à Montréal, ça revient de plus en plus, la livraison par vélo, là. Mais moi, je me souviens qu'il y avait un gars qui partait de l'épicerie puis qui venait jusqu'à la maison à vélo. C'est un vélo genre trois roues, là, de mémoire, avec un gros panier en avant.
En avant. Mais maintenant, c'est du vélo cargo. De cargo. Plus en plus, même les petites familles qui ont des enfants très jeunes utilisent ça. Tu as des services de messagerie qui utilisent les vélos cargo. De plus en plus, ça revient. C'est pas les mêmes vélos, mais des boîtes encore plus grandes, d'ailleurs. J'ai même appris qu'il y a une compagnie qui fait des petits déménagements avec ça. Des vélos cargo.
Ah oui?
Oui, oui, effectivement.
On voyait ça des fois dans des documentaires là, à New York où il y avait des gens qui étaient des facteurs ou qui offraient un service de livraison de courrier qui partaient d'une entreprise à une autre puis ça allait super rapide. Ça allait plus rapidement que, exemple, le véhicule. Là. Il n'y avait pas de stationnement à se trouver. Ça allait puis ils pouvaient passer partout aussi. Oui,
effectivement.
OK, fait que tu as découvert le vélo très jeune.
Oui, très jeune. À l'âge de 13 ans, je suis parti avec deux copains d'école. On est allé... de Montréal jusqu'aux chutes Niagara à vélo. On est parti, on a vécu...
À 13 ans.
À 13 ans, toutes sortes d'aventures. J'aurais jamais laissé partir mon gars à 13 ans. Je
non,
comprends pas.
Aussi.
Quand j'ai annoncé ça, mes parents, ils m'ont pas posé une seule question. Ils ont dit, bon, hey, c'est un beau projet,
mais
vas-y.
C'est pas parce qu'ils nous aimaient pas, c'est parce que c'était comme ça dans le temps.
C'est ça,
moi, je me souviens là, que je partais le matin... Puis j'avais qu'un seul mandat, c'était de surveiller les lampadaires. Quand les lampadaires allaient s'allumer le soir, c'était là où il fallait que je rentre à la maison. Mais je partais à 6h30, 7h la fin de semaine. Puis toute la journée, des fois, je mangeais pas, puis je revenais le soir, puis j'avais passé ma journée. Puis on me disait, puis t'as passé une belle journée? Oui, ça a bien été, j'ai rentré dans ma chambre, j'écoutais la télé.
Mais voyons.
Ouais, mais non, aujourd'hui, mais... là, je veux dire, c'est impensable de laisser un enfant de 13 ans dehors de
moi. Ah mon Dieu, non, ça c'est sûr.
Mais c'est ça. Fait que non, c'est de là qu'est née ma passion. Puis ça ne s'est jamais démenti. C'est revenu. Bon, j'ai eu toute ma période de hockey très, très intense, là. Mais quand on a eu notre garçon, bien, à 5-6 ans, le vélo est tellement une belle activité familiale. C'est là qu'on a recommencé à en faire. Puis là, bien, c'est devenu. La passion s'est accentuée. Ouais. Maintenant, je guide des groupes en voyage de vélo en Europe. Oui. J'en fais beaucoup, beaucoup au Québec. J'ai ratissé le Québec à peu près toutes les régions, dans toutes les directions. Ouais. C'est tellement un beau loisir. Puis pour certains, c'est un loisir. Pour d'autres, c'est une façon de se tenir en forme. C'est plus la performance. Il y a tellement de façons différentes qu'on peut pratiquer le vélo. Pour moi, c'est de toute beauté. Puis maintenant, avec l'essor du vélo assistance électrique, je vois des gens, c'est peut-être un préjugé, là, tu dis, oh, je pense qu'eux autres, ça fait 30 ans qu'ils n'ont pas fait de vélo, mais tu les vois sur leur vélo assistance électrique, le guidon haut, ils s'en vont, la tête haute, même face au vent, gros sourire aux lèvres. Mais c'est la vie avec heureux. Un grand V. Ils sont heureux, ils sont exact. Dans le plaisir.
Puis moi, je trouve ça le fun parce que les vélos à assistance électrique, on a un collègue ici, Dan Caron, qui en a un. Et puis t'as des gens, mettons, qui pourraient pas se permettre de faire des raids de vélo pour blessure ou pour... qui peuvent tout d'un coup se mettre au vélo avec ce type d'engin-là, finalement.
Effectivement.
Ou, moi, vélo, j'ai pas de cardio, je suis vraiment pas en forme, pour être très honnête, là. Mais un vélo comme ça, il y a des gens qui, ben, tout d'un coup, la côte, et puis c'est difficile à monter, ça leur donne envie de sortir puis de pratiquer.
Non, mais demain matin, tu as des amis qui disent « Ah, viens donc avec nous autres, on s'en va faire la cycloroute de Bellechasse où on part pour la fin de semaine. On va faire 3 microbrasseries dans un parcours de vélo XYZ. » Tu te loues un vélo assistance électrique. Là, tu dis « Parfait, je vais être capable de suivre mes amis puis de vivre ça avec eux autres. »
T'es au vent,
puis on
au
sait jamais.
Air.
Oui, t'es au grand air, c'est ça. C'est la nature. Puis au Québec, là, c'est incroyable. Maintenant, là, tout ce qui est agrotourisme, produits du terroir et tout, on se fait des parcours maintenant en fonction de ça. Moi, là, tout ce qui est microbrasserie, chocolaterie, crèmerie, en vrai, tu sais, j'aime ça, arrêter dans ces endroits-là.
Puis tu peux manger ce que tu veux, tu fais du sport.
Ben oui, c'est ça, exactement.
Non, c'est vrai. Mais sous-estime-toi pas, Audrey, parce qu'à ce temps, tu t'entraînes, mais tu t'entraînes à un rythme que tu t'entraînais pas au départ. Le vélo, c'est la même chose. Tu fais des petites sorties, puis après ça, ben, au fur et à mesure de tes sorties, tu en apprends peut-être un peu plus, ton corps se développe, t'as
mais
plus
je suis mal équipée aussi. Tu sais, je pense que quand tu es mal équipé, tu peux aller ça vite, le vélo, dans mesure où, tu sais, moi, mon bas, mettons, c'en est pas un bon, là. Fait que j'ai mal au derrière, c'est pas trop long.
Oui, mais
il y a des affaires comme ça qu'il faudrait que je modifie, là.
C'est pour ça que je donne toujours comme premier conseil aux gens qui veulent s'acheter un vélo, aller dans une boutique spécialisée et ces gens-là vont se renseigner. Qu'est-ce que tu as envie de faire comme vélo? Parce qu'on pourrait te vendre un vélo à 15 000 $ mais si tu dis, moi, c'est pour en faire une fois de temps en temps, puis je veux faire des pistes cyclables en poussière de roche et c'est ça, bien, on ne te vendra pas le même vélo qu'à quelqu'un qui veut faire de la performance. Et la première chose qu'on devrait te demander, justement, quand tu entres dans une boutique, c'est ça. Quels seront tes besoins?
Oui.
Tes besoins. C'est ça qu'il faut cibler d'ailleurs, d'abord. Et ensuite, les boutiques spécialisées vont te positionner. C'est peut-être pas ta selle. Tu dis ton banc de vélo, c'est peut-être pas ça qui est le problème. C'est peut-être qu'il est trop avancé, trop reculé, pas exactement à la même hauteur. Peut-être qu'on peut monter ta potence un peu pour que ton corps en avant soit plus haut ou plus bas.
Parce que je vais vous dire, M. Martineau, on n'a pas une belle relation, mon banc de vélo et moi. Là. C'est difficile. Là. Les
c'est
rails
valeur.
Sont...
C'est de valeur parce qu'il y en a beaucoup qui voudraient être réincarnés en selle de vélo. Là.
Oui, et ça, je suis convaincue.
Mais ça m'est arrivé aussi, Audrey. J'avais un vélo qui ne correspondait pas du tout à mes besoins. J'avais tout le temps mal à chaque fois que j'en faisais.
Et puis quand tu ne connais pas ça, tu le sais pas.
Puis là, j'en suis venu qu'à penser que c'était peut-être mon cul le problème.
Ben moi
là,
aussi, je me suis demandé ça. J'ai-tu le cotis trop long? J'ai-tu une déformation?
J'avais été à l'époque, j'avais été chez Sport Expert pour ne pas les nommer. Puis ils m'ont dit, ben voici le type de selle que vous pourriez prendre. Puis je l'ai essayé, puis jusqu'à aujourd'hui, j'ai encore ce vélo-là. Ça fonctionne super bien. Mais tu sais, passe en fin de semaine, c'est du 21 au 23 mars, donc ça commence aujourd'hui, là, c'est
à
Expo Cité,
le
salon du vélo de Québec. As-tu... Bon, on est un peu en chicane avec le gros orange ces temps-ci. Là, puis on dit,
pas, faut juste un peu, non.
Faut acheter non. Canadien, faut acheter québécois. Y a-tu des entreprises québécoises qui fabriquent des vélos?
Oui, il y a de plus en plus de fabricants, même des petits fabricants artisanaux qui ne sont pas très, très connus. Mais dans ceux que vous allez voir en fin de semaine, tu as Sphérique, qui est notamment une compagnie de Québec qui va être là, un fabricant de Québec. Il va avoir des vélos Opus, Argon 18, De Vinci, Seven Peaks, Sava, Norco, qui sont des vélos québécois ou canadiens. Vous avez les boutiques aussi. Les grandes boutiques, je pense à l'Essor Bessic qui célèbre ses 70 ans cette année en investissant 1,5 million dans son nouveau magasin. Vous avez Mathieu Performance, Primo Vélo va être là. Et j'invite les gens aussi, on a une piste d'essai. Vous vous dites, tiens, j'ai jamais essayé ça, un vélo de montagne ou un vélo de gravel ou un vélo à assistance électrique. Bien, on a une piste cyclable intérieure.
Mais
vous
non.
êtes en mesure, oui, de pouvoir venir essayer des vélos. On a des conférences. Comment choisir son vélo à assistance électrique? C'est quoi les critères lorsqu'on veut partir en vacances, en voyage? À quoi il faut faire attention? On a une section tourisme. La plupart des régions du Québec sont représentées, les réseaux cyclables, des destinations. Venez vous préparer, on le dit, là, on est en chicane avec le Grand Orange de l'autre côté. Là. Bien, venez préparer votre prochaine saison de vélo avec les réseaux, les régions, les destinations.
Et puis on a des beaux paysages, on va se le dire.
Ah, c'est, écoute, moi, là, je voyage beaucoup à travers le monde, mais mon Québec, je l'ai ratissé de fond en large.
Êtes-vous déjà venu à Deschambault?
Bien, certain que je suis allé à Deschambault.
Je suis content de vous faire plaisir.
Puis on est privilégié au Québec. On a un pays extraordinaire. La nature, le plein air.
Est-ce qu'il y a...
Les quatre saisons, l'automne, quand ça arrive.
Puis je suis un amateur de plein air au sens large. Là. Autant je suis content que la saison de vélo commence, autant je suis déçu parce que j'ai pas assez fait de ski de fond, de randonnée alpine, de vélo d'hiver, de fat bike en bon japonais.
Il y a des vélos, évidemment, là, au Salon du vélo de Québec, mais est-ce qu'il y a autre chose? T'sais, je pense aux équipements. Là. On parlait de sel, mais les soudes que vous mettez, les casques, les ci, les ça, il y a du moyen de magasiner.
On va y poser la question. Montrez-moi vos avant-bras, là.
Ouais, avez-vous un beau saut souvent en ce moment? Là?
Il lève son chandail. Tu veux savoir si je suis tatoué? Là?
Non, je regarde si c'est rasé. Ils sont tous rasés.
C'est vrai qu'il y a des...
Ils rasent les mollets, ils rasent les avant-bras.
Ouais.
C'est vrai que ça aide à aller plus vite, c'est...
Oh, c'est soit on
j'ai
dit...
jamais été dans la performance. Fait
on me dit soit les blessures ou soit pour aller plus vite. Ça a l'air que pour les blessures, quand t'es rasé, c'est beaucoup mieux.
Oui, c'est oui pour la guérison.
Ouais.
Oui, effectivement.
Bon.
Effectivement.
Ah, c'est technique.
Mais
quand même.
Pour répondre à ta question, oui, des accessoires, je pense à écailles, des casques réputés qu'on voit sur le Tour de France. Écailles Canada va être là. Je pense à Santini, les vêtements de vélo italiens sont là. Mais en général, dans les boutiques, vous allez voir des accessoires et tout. Oui, vous allez pouvoir voir ça.
Puis ma dernière question, concernant la nourriture. Parce que souvent, j'entends des gens qui font du vélo, puis qui font des long rides, puis qui ont besoin de petites collations bien spéciales et petites qui vont traîner avec eux. Là. Y en a-tu des kiosques où on présente des types de collations peut-être pour les sportifs?
Et... Effectivement, vous allez trouver, il y a trois kiosques qui me viennent en tête, trois exposants qui me viennent en tête qui vont être là. Je pense notamment à Brix, qui conçoit des jujubes et différents produits à base des produits de l'érable. C'est absolument délicieux, en plus d'être nutritif.
C'est la semaine de l'érable, en plus, là, en Beauce, entre autres.
Là. Moi, je suis un grand gourmand des produits de l'érable. Alors, dès qu'on me parle de n'importe quoi qui est fait à base de produits de l'érable, je suis acheteur. Oui, donc, tu vas pouvoir avoir ça aussi au Salon du vélo. Écoute, on a l'année passée, c'était la première édition. Et on a augmenté la superficie cette année de 70 % pour le salon du vélo. Donc, ça veut dire que les gens sont venus... C'était extraordinaire l'année passée parce que les gens venaient me voir. Bon, je ne suis pas le promoteur, je ne suis pas l'organisateur, je suis le porte-parole, mais je suis quand même la figure publique. Là, puis je fais tellement de vélo, je suis quand même assez connu là, dans le domaine. Mais les gens venaient me voir et me dire « Merci ». De nous faire un vrai salon du vélo à Québec. Les gens étaient reconnaissants.
C'est bien le fun.
Tu sais, les gens de la région de Québec, encore cette année, je viens avec une quinzaine de personnes. On s'en vient passer 4 jours pour rouler dans la région. Les gens sont passionnés. Et je me plais souvent à répéter une statistique. Le pays du Tour de France, la France, 400 vélos par 1000 habitants. Au Québec, 750.
Hein? Oh!
750. Crème. On aime la bécane. On aime ça.
Mais chez nous, on en a 6. On est 6, on en a 6.
On a chacun notre vélo. Pour l'instant, mais éventuellement, il va en avoir plus, c'est sûr. Là,
Oui, mais c'est pas juste une question d'en avoir plus. C'est
d'en faire.
Est-ce que je l'utilise?
Ouais,
puis quand je l'utilise, est-ce que j'ai du plaisir? Si vous avez du plaisir, vous allez en faire davantage. Mmh. À moins que vous soyez déjà un grand sportif de nature qui se dit « Bon, moi, j'aime ça me faire mal, puis je vais faire ça pour la performance ou je veux participer à des grandes fondos. » Il y a tellement des beaux événements populaires maintenant. Là. Aux gens, avis aux gens là, qui se disent « Moi, je suis toujours tout seul ou on est en couple, puis on ne sait pas trop où aller. » Regardez les événements populaires qu'il y a sur la véloroute des Bleuets au lac Saint-Jean, sur la véloroute de la péninsule acadienne, ici dans la région de Québec. Je m'en viens faire la Bocklune sur Gravel là, dans Bellechasse cet été. Il y a tellement d'événements, des grandes fondos de Charlevoix. Il y en a tellement. Participez à ces événements-là. Il y en a qui sont plus sportifs, mais il y a souvent des distances qui sont moindres, qui sont faites pour vraiment, monsieur et madame, tout le monde, joignez ces événements-là. Il y a souvent des collations d'inclus, l'encadrement et tout. Vous allez vivre une ambiance, là. C'est un festival des gens heureux, ces grands événements-là.
Ah,
c'est tellement le fun à vivre.
J'en doute pas. Il faut commencer quelque part, Audrey. Fait que là, tu vas commencer à t'entraîner cette année. Puis l'année prochaine, tu vas aller avec Yvan Martineau faire du vélo. Le Salon du vélo de Québec, ça ouvre à midi aujourd'hui. C'est jusqu'à 20h ce soir, samedi et dimanche. Donc, en fin de semaine, c'est de 10h jusqu'à 17h. L'admission générale, c'est autour de 12$ à ce qu'on me dit. Puis sinon, les étudiants, c'est autour de 9$. Puis il y a un prix familial aussi. Là, quand
exactement.
Vous avez votre
deux familles, deux adultes. Deux enfants. Les enfants en bas de 14 ans accompagnés d'un adulte, c'est gratuit. Mais tous les détails sur salonduvélo.com si vous voulez aller en chercher davantage avant de venir nous saluer, nous serrer la pince.
Yvan Martineau, ça a été un plaisir.
Hey, ça a été un plaisir partagé.
Tu me rappelles plein de souvenirs. Ben oui, ben oui. Ben, il était venu l'année passée, puis on a commencé à jaser, puis là, tout d'un coup, tout le monde voulait parler à Yvan Martineau. Là.
Ben, juste tantôt, quand je vous ai croisé dans le corridor, là, on a notre collègue, là, Laurence, qui est un grand, grand passionné de vélo, qui était...
C'est un aimant.
Ben oui, oui.
Yvan Martineau,
c'est
un aimant.
C'est normal.
Vous êtes fin. Vous êtes fin. Mais ma première motivation...
Ta femme écoute-tu?
Pas actuellement, non. Okay.
Mais j'espère que ça va se rendre. Yvan Martineau, c'est un aimant à femme. J'ai vu ça.
Mais ma première passion dans la vie en général, pourquoi j'ai choisi le sport, pourquoi j'aime autant le vélo, le plein air, c'est le social. C'est le social, moi, c'est mon premier critère.
Mais ça se vaut
que
t'aimes le
toujours
monde.
Aimé le monde, c'est tellement le fun.
Un gros merci d'être passé.
Merci
Audrey, après la pause, on parle avec Mademoiselle V.
Oui, on jase avec Mademoiselle V. C'est un sujet aujourd'hui qui est un peu plus sérieux, mais normalement, ça vous fait réagir au 88-971-1021. Tout ce qui est image corporelle, estime de soi, évidemment que c'est un lien avec la sexualité, on va s'entendre. Là. Donc, dans quelques minutes, Mademoiselle V s'en
va. Merci beaucoup. D'ici là, vous avez des choses à nous dire. C'est le 88-971-1021, 88-971-1021. Nous autres, on s'en va en musique avec le clan de la Savate, l'armée des voyous sur les ondes de boulevard. Merci d'être là. Bon vendredi.
Dans l'open mic. Avec Marceau et Audrey Pinchot.
Boulevard
101. 10h31, c'est 2 degrés sur Québec. C'est très nuageux. Est-ce que ça va rester comme ça tout au long de la journée? On va aller vérifier auprès d'Environnement Canada. Quelques averses pour la matinée. Peut-être un peu en mi-journée, nous mentionne-t-on, maximum de plus 5 degrés. Ciel dégagé pour ce soir, minimum de 6. Samedi, ce sera quelques averses aussi qui devraient débuter en après-midi avec un maximum de 6 degrés. Et dimanche, c'est le grand retour du soleil avec des nuages, c'est ce qu'on nous mentionne. Donc, alternance soleil-nuages, maximum de moins 2 pour ce qui est de dimanche. Très gentil, M. Martineau.
Ah, c'est un petit coup de cœur, vraiment.
Tu connaissais pas, hein?
Ben, je connais le nom, évidemment, mais je veux dire, est-ce que c'est de mes années? Je te mentirais de te dire oui, là. Mais c'était super le fun de le voir parler encore autant avec passion de sa carrière puis de ce qu'il fait présentement.
Je pense que ça y a fait du bien de jaser de ses premières années à la télé. Là.
Mais la nostalgie, c'est toujours positif. Hein? Ça exact. Nous ramène des... en fait, la nostalgie est faite pour être positive à la base. Là. C'est rare qu'on se rappelle du négatif.
T'es-tu capable de gérer que la température chez vous, toi? Parce qu'ici, t'es pas capable de te gérer chaque fois que t'arrives dans le studio.
Je te l'ai déjà dit, moi, il fait 17 chez nous, on touche pas à ça. Entre 17 et 19, en haut de ça, on s'endure pas, ni moi ni mon chum.
Mais t'es la fille qui s'habille le plus ici.
Oui.
T'as une doudou aussi que tu mets dans le retour.
Absolument.
C'est quand même particulier, mais si vous voulez plus vous ostiner pour ce qui est de la chaleur chez vous, on a un concours en collaboration avec EnviroConfort. C'est dans Rage Against le matin et c'est le concours parfait pour corriger les gens qui se gèrent pas à la maison côté température. Vous réglez ça, puis ça bouge pas.
toute la semaine, ils vont vous demander le nom d'une personne de votre entourage qui n'est jamais satisfait de la température. Ce prénom-là devient l'indice du jour à inscrire au blvd.fm pour participer. Plus vous nous écoutez, plus vous pouvez participer pour courir la chance de gagner une thermopompe LG Dual Cool 12 000 BTU livrée et installée grâce à EnviroConfort. Vous allez avoir la température parfaite en toute saison.
Il y a présentement sur la 175 Nord à la hauteur du kilomètre 110, la voie de gauche qui est bloquée. Il y a une sortie de route dans ce coin-là. Donc, soyez prudents. Pour le reste, ça roule quand même bien. Léger ralentissement sur le pont Pierre-Laporte, direction nord, mais honnêtement, tout roule là. Fait que quoi que ce soit, vous passez par le 88-971-102.
Mademoiselle V s'amène dans le show dans les prochaines secondes.
Boulevard à
1039, elle est bel et bien là. C'est vrai, j'y ai touché l'avant-bras. Mademoiselle V, vous êtes la vraie?
Oui, c'est moi.
Celle dont on entend tant parler?
Oui, Valérie Kardashian. C'est moi, ça. Même derrière, pareil.
Voyons l'humoriste ce matin.
Ben oui, aime ça. T'as-tu joué au hockey, toi, hier soir?
Non, moi, j'ai joué à Block Blash.
À Block Blash, c'est quoi ça?
Block Slash Blash. Blash Block. En tout cas, c'est un affaire de Tetris, là.
OK, puis t'as joué à ça?
Oui, moi, je suis championne. Moi, puis la réceptionniste, si on fait des concours, là, je suis rendue à 65
423. Oh, ouais.
La fierté!
Hey, dimanche après-midi, mon gars m'a clenché aux échecs, là. J'avais jamais mangé une varlope demain.
Ah, ouais.
C'est tellement insultant.
Ben c'est parfait, ça veut dire qu'ils
sont jeunes en plus, ils sont bright, là.
Ouais, puis mais c'est parce que là, eux autres, tu sais, dans le temps, dans mon temps à moi, là, pour être bon aux échecs, il fallait que tu achètes des livres, puis que tu apprennes certaines stratégies et tout ça.
T'as la bibliothèque.
Puis c'était long, c'était compliqué, j'étais jeune et con, puis je me donnais pas la peine de le faire. Puis ce que j'ai appris aux échecs, c'est avec l'expérience, contre des gens contre qui j'ai joué, tu sais. Mais eux autres, ils vont chercher des stratégies maintenant sur YouTube, Audrey.
Mais non, mais c'est ça, ils ont Internet pour s'aider eux autres. Fois, il y a des applications.
Des fois, ils te clenchent, là, puis t'as rien vu aller, là.
Ils ont-tu écouté The Queen's Gambit?
Non, ils n'ont pas écouté ça. Mais c'est pas leur c'est genre, bon, vraiment. Hein?
Non, mais eux autres, les échecs, c'est autour de ça.
Leur seul et unique but, c'est de m'entendre sacrer après la game.
Ah, OK, bon.
C'est ça, leur motivation.
Non, je te comprends. Mon fils est aussi un fan d'échecs.
Ouais.
Et le soir, des fois, je rentre dans sa chambre puis je me dis à son âge, je vais le pogner en train de se masturber. Mais non, il fixe le plafond. Puis là, quand je lui demande, mais qu'est-ce que tu fais, mon fils? Il me dit... J'imagine des stratégies d'échecs.
Oh mon Dieu, comme dans Queen's Gambit, c'est bien drôle.
C'est clair qu'il est en train de se masturber.
Il travaille son imagination, c'est parfait.
C'est ça.
Ça va lui servir plus tard.
Tout à fait.
Non, mais tu sais, des fois, je me vengeais sur eux quand ils étaient jeunes. Là, je jouais au hockey sur Xbox contre eux. Puis là, j'ai ramassé 12-0. Tu sais. J'étais bien content. Là, je suis plus capable de faire ça. Ils ont comme obtenu leur revanche.
Ils ont tant dépassé hockey, le maître.
Tout hockey, ouais,
ouais, mais attends, sors les vieux games de ton temps. Là. Moi, je les clenche. Je sors Nintendo 64, Mario Kart. Là,
ouais.
Et je te les clenche d'un détour, je te
jure. Mario Kart? Ouais.
Eh oui, moi aussi, je fais Mario Kart. Il faudrait se faire un tournoi maintenant.
Mais c'est assez facile, Mario Kart. Oui, on pourrait faire ça à Saint-Le-Bourneuf en bas.
Ça serait malade. Oh mon Dieu, un tournoi Mario Kart.
Je veux une invitation. J'ai-tu le droit d'être
invité? Oui, c'est sûr que les collaborateurs sont invités. Et moi, je suis pas une gamer dans la vie, mais nous autres, ce qu'on a fait dans le sous-sol chez nous, on a acheté sur Marketplace un GameCube, parce que j'avais perdu le mien, GameCube, avec le bon vieux Mario Kart, là, les mini-CD. Là.
Oui.
Puis on a pris sur le bord de la rue une vieille foutue TV, là. Tu sais, les boîtes là, grises, la grosse affaire lourde que ça prend trois gars pour la lever. Là.
Uh-huh.
Fait qu'on a pris ça, puis dans le sous-sol, on s'est fait un genre de petit setup vintage Mario Kart.
Oh, c'est
puis nous autres, c'est à ça qu'on joue.
Ah, ouais.
Ah, oh, ouais, moi, écoute, t'as bonne
bière. Les filles virent folles avec Mario Kart.
Ben, non, mais c'est tellement le fun. Je veux dire, tu peux pitcher des affaires. C'est tu peux pas faire ça quand tu conduis dans la rue. Non, pitcher des bananes par ta fenêtre. Tandis que là, c'est merveilleux.
On peut se défouler.
Ben c'est oui. Ça. Quel plaisir de pouvoir tirer des choses par la fenêtre.
Effectivement.
All right, Mademoiselle V, aujourd'hui, on parle d'image corporelle et d'estime de soi. Bien honnêtement, j'ai l'impression que ça va juste être un sujet de filles. Y a-tu des gars qui ont des problèmes d'image corporelle et d'estime de soi?
Ben oui,
ben,
surtout,
beaucoup, je pense.
Surtout, écoute, regarde, je vais te lancer déjà une grosse statistique, là, mais les hommes sont extrêmement préoccupés par leur poids, la taille de leur abdomen, ainsi que leur musculature et la taille de leur pénis.
Oui, ça surtout. Ah, ouais, ça vient en premier des fois, j'ai le goût de dire.
Ah oui?
Oui. Mais Yannick n'a pas ce problème-là, évidemment.
Ah, non. Non, Yann, il ne parle jamais de ça. Yann, il est très humble.
Moi, c'est de par là que je vois que j'ai des descendants de la Côte d'Ivoire. mais je te dirais que la taille de l'abdomen, des fois, je me pose des questions. Surtout quand je reviens du Sud, là, puis je rembarque sur la balance.
Est-ce que tu vois encore ton membre quand tu es debout? C'est bien. On peut dire que c'est quelque chose qui préoccupe beaucoup les hommes. C'est, j'ai lu ça sur Internet, de ne plus être capable d'avoir une vision sur leur petit weenie.
Mais tu sais, moi, je suis un gars qui est relativement mince, là. Mais quand je prends du poids ou la bedaine.
Dans le bedon.
Puis c'est tout le temps quand je reviens du Sud, là. Là, mettons, la semaine d'après, là, on dirait que je suis enceinte de 7 mois. Puis là, après ça, il faut que je fasse attention. Puis là, ça fond. Je suis encore chanceux, ça fond encore. Mais c'est pas toujours évident. Là. C'est vrai que l'abdomen, je te le donne, les statistiques sont bonnes. Ouais. Les gars se posent des questions par rapport à ça.
C'est quoi ta relation avec Winnie?
Avec mon pénis?
Je te niaise, Yann. Non. Tu veux-tu répondre?
C'est quoi?
Il est embêté, là. C'est parce que j'ai utilisé le mot Winnie pour le petit
jeu. Je trouvais ça beau, ben oui.
Ma relation avec mon pénis?
Ouais.
Tout va bien chez maintenant.
Ouais.
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 Oh, ouais.
C'est intéressant.
Sinon, tu m'appelles, on en jasera, Yann. Ça va me faire plaisir. Je chargeais juste 50 $
C'est de même.
T'es pas rendu à l'étape suivante d'aller chez le pharmacien?
Non, les femmes de ma vie ont dit « C'est bizarre, toi, quand il y a un coup de vent, ça part. »
Ah, mais je suis contente pour toi.
Oui.
Ben, t'es un homme
ça
en santé,
ça paraît juste mal dans une bibliothèque.
Oui, c'est ça l'affaire. Là. Ça peut être dangereux, là. C'est...
Il y a quand même pire que la bibliothèque, je te dirais. Hein?
Oui.
Mais bon. Ben, t'es un homme en santé, puis ça paraît, mais c'est pas tout le monde. Hein. Il y en a qui ont des problèmes de santé, puis qui vont voir leur bédaine pousser avec le temps, puis déprimer par rapport à ça. Chez les hommes, ça semble être le principal,
mais
la problématique.
Mais perdre du poids, c'est-tu vrai que c'est plus dur quand on vieillit
parce que toute la... En fait, ce qui arrive, c'est quand on vieillit, on accumule le gras au niveau de l'abdomen, qui est le gras qui disparaît en dernier, surtout chez la femme. Hein? Les hanches et le bedon. Oui. Donc, automatiquement, ça devient plus dur à perdre parce que c'est le gras qui part en dernier. Fait que là, tu finis comme moi, là, avec deux petites jambes allumettes, mais avec un bedon. T'sais. Fait que là, tu te dis, si je maigris, je maigris des seins, je maigris des cuisses, mais je maigris pas de où ce que je veux que ça maigrisse. T'sais. Mais bon, ça, la liposuction est sur ma liste, bucket list. On verra ça plus. Je vous en reparlerai.
Un jour, peut-être, ouais.
En 2046. Je ne sais pas si vous saviez, mais l'apparence, c'est le premier critère de sélection quand on rencontre quelqu'un. Hein?
Oui.
Puis c'est automatique dans le sens où c'est la première source d'information qu'on possède sur la personne.
Mais j'aime tellement ça que tu utilises le franc-parler puis que tu sois pas gêné de le dire.
Ben non.
Parce que bien souvent, il y a des gens qui vont dire « Ah, moi, l'apparence, non. » Mais c'est pas vrai. T'es non. une menteuse. T'es un menteur. On est menteur de même. C'est pas vrai que le premier critère, c'est pas l'apparence.
C'est parce que c'est inconscient. Mmh. Moi, je crois au fait qu'après, ils disent l'amour rend aveugle. Je crois au fait que plus les rencontres avancent, plus quelqu'un peut devenir beau à tes yeux par sa personnalité. Mais t'as raison sur le fait que la première chose qu'on voit, c'est ce qu'on analyse, c'est ce qu'on juge même.
Dans la nature, les animaux se parent de toutes les couleurs possibles. Le pan, il s'étend pour montrer toute sa grosseur, sa grandeur, ses couleurs. Mmh. Ben, on est de la nature aussi. On est des êtres humains, on est pareil. S'il n'y a pas le premier regard qui est « wow », souvent, tu vas passer à d'autres choses si tu n'as pas la chance de la connaître, cette personne-là.
Ouais.
Puis imagine si, en plus, on ajoute à ça le fait qu'une image corporelle positive est le premier facteur de protection des troubles et dysfonctions sexuelles. C'est quand même fort. Ça veut dire que si tu as confiance en toi, si tu as une estime personnelle qui est bonne et positive, tu vas avoir beaucoup moins de problèmes en intimité.
Mais ça, j'en doute pas en tout. Parce que juste comme femme, il y a des moments dans le mot où tu te sens comme de la merde, on va se le dire. Là. Et ça, non, mais c'est vrai que
les journées de la semaine qui finissent comme un « i », mettons.
Va donc chez le bonhomme.
Puis là, tu regardes tes cuisses et tu te dis
« oui ».
Tu regardes tes cuisses puis tu te dis, c'est-tu fait en stucco, cette affaire-là?
Ouais, genre le matin où tu te lèves puis tu te regardes dans le miroir puis tu te sens comme de la chenoute, là.
Ouais.
Ça se peut que le soir au lit, là, tu sois pas dans ton meilleur état, que ça lubrifie pas aussi facilement, que l'acte se passe pas aussi naturellement que d'habitude parce que tu es dans ta tête puis tu penses au fait que tu as l'air d'un... d'un bonhomme Michelin, là. Tu comprends que t'as l'air d'un... Non, mais tu sais, quand tu te sens pas bien...
Faut pas qu'il y ait de miroir dans ton garde-robe. Faut pas qu'il y ait de miroir au plafond. Faut pas qu'il y ait de miroir sur
le mur. Non, c'est ça. Moi, j'en ai un en chambre, mais il est vraiment dirigé vers la porte pour comme dernier look avant de partir, là, tu sais. Ouais. Je le voudrais pas diriger vers le lit, là.
C'est ça que j'ai de l'air.
Ça gâcherait ma vie.
Non, c'est d'ailleurs une chose à ne pas faire, à moins que vous soyez vraiment très, très à l'aise avec votre physique. Alors là, allez-y à fond.
Mais il y en a qui sont voyeurs puis qui aiment ça, se voir. Moi, j'ai entendu ça souvent. Ben oui. Et moi, me voir dans l'action là, avec mon chum, là, c'est comme si je regardais de la porno puis ça m'allume bien raide.
Oui, c'est un des premiers fantasmes là, de pouvoir se voir en train de donner du plaisir à quelqu'un ou en train de recevoir le plaisir de quelqu'un d'autre. Moi, oublie ça, c'est un film d'horreur, mais ça, c'est personnel à tout le monde.
Ouais, je ne sais pas si ça se travaille vraiment, c'est ça. Faut que tu travailles ta confiance personnelle.
Ça se travaille, mais ouais. Est-ce que ça devient... tu sais, est-ce que demain, je vais avoir la confiance de Madonna? Je suis pas sûre.
Moi, quand j'ai rencontré mon chum, j'avais 40 livres de plus qu'actuellement.
Okay.
Puis j'aurais pas voulu me croiser, mettons, dans un miroir là, avec le bourrelet supplémentaire, genre, là, tu comprends qui.
Celui qui est en surplus.
Celui qui est comme en surplus, mettons, qui
mais comment tu faisais là? Pour pas te croiser dans le miroir?
Ben non, mais tu te croises inévitablement, mais je veux dire, j'évitais de me regarder tout nu, Yann, dans le miroir, mettons, là. Je m'admirais pas ben, là.
OK.
Tu comprends? En fait, c'est ça, c'est que tu finis par comprendre l'effet que ça a dans ta tête aussi. Là. Moi, quand je me regardais dans le miroir, c'était pas comme « Oh, ça look good ce matin », c'était comme « Puis il fallait que j'apporte des changements. »
Je suis certaine que si on demandait à ton chum comment lui te voyait, ça aurait été totalement le contraire. C'est comment? Ça.
Il me préférait, il me dit ça des fois, mais il me dit pas qu'il me préférait toutoune littéralement, mais il me disait, il me dit que lui, il voit pas la différence. Dans ce temps-là, j'ai quand même envie de l'envoyer paître, là. J'avais 40 livres de plus. Là.
Ouais.
Mais pour lui, il m'a rencontré quand j'avais ce poids-là, tu comprends? Puis j'étais belle, j'étais à son goût. Là.
Dans le fond, tout ce qu'il veut, c'est du sexe.
40 ou 40 livres de plus ou de moins.
Peut-être, mon estime, en ce moment.
C'est 40 livres d'amour.
Oui, c'est ça, des poignées d'amour.
C'est juste ça, en fait. Je ne sais pas si vous savez une petite idée de ce qui cause votre estime personnelle. Je ne sais pas, toi, est-ce que. J'imagine que connaissant un petit peu ta mère quand elle nous appelle puis elle nous écrit en studio, ça a l'air d'être une femme géniale. Donc, j'imagine que tu as été élevée dans l'estime de soi positive et l'aspect corporel sain.
Oui. Mais là, moi, j'ai eu la passe malheureuse qu'on a tout eu à différents niveaux. Moi, j'étais assez hardcore, là, mais j'ai eu la grosse passe intimidation à l'école qui fait que même si ma mère aurait fait le plus beau des travaux, d'autres se sont occupés de le détruire. D'accord. Mais l'estime, ouais. Je te dirais, ce qui cause pour moi l'estime, c'est dur à dire parce que la première réponse qui m'est venue en tête, si je suis vraiment transparente avec toi, là, je pense qu'on est là pour ça, il y a un peu des autres là-dedans pour moi. Ouais. Mon entourage, la façon que mon entourage me traite, les gens de qui je m'entoure, la façon que les gens réagissent autour de moi, ça joue beaucoup, beaucoup sur l'estime personnelle que j'ai. C'est peut-être pas la réponse que tu veux, mais
non.
Malheureusement...
Oui, ça en fait partie parce qu'en fait, ce qui influence, entre autres, il y a la culture familiale. Hein, comment tes parents voyaient eux-mêmes leur propre image. Tu as grandi à côté d'une maman qui était anorexique puis qui pesait ses dates dans sa petite peseuse. C'est clair que pour toi, ça risque d'être une obsession aussi, veut pas, ou comment tes parents te traitaient quand tu étais jeune. Bon, moi, par exemple, j'avais un surplus de poids. Moi aussi, j'étais intimidée à l'école. Mais tu sais, d'un fois, mes parents y allaient de petites craques pas très gentilles. Puis c'est le genre de choses qui marque pour un enfant, puis qui peut contribuer à ça.
Est-ce que tu penses que les parents s'en rendaient compte de ça?
Non, je pense pas. Je pense, tu sais, j'ai grandi en région. Je dis pas que les gens de région sont stupides ou quoi que ce soit, mais on dirait qu'il y a une certaine banalité par rapport à certaines choses, par rapport à la violence psychologique ou la manière dont on traite l'intimidation, ces choses-là.
Mais ils savaient-tu à l'époque que c'était, sans nécessairement de parler d'un cas en particulier, ils savaient-tu à l'époque, quand les gens passaient des commentaires comme ça, savais-tu que ça s'appelait de la violence psychologique?
Verbal, je pense pas.
Verbale. Tu sais, moi, l'intimidation, on n'en parlait pas là, dans les années 80, là,
non,
primaire.
C'est ça.
Il n'y a personne qui me parlait de ça. Là,
je pense qu'il y a des parents qui n'ont peut-être pas voulu mal faire non plus en passant des commentaires sur leurs enfants qui mangeaient plus de gâteaux que le voisin. T'sais.
Oui, puis tu veux le protéger aussi. Tu ne veux pas non plus qu'il s'empiffe de cochonneries puis qu'il subisse après ça les moqueries à l'école. Ça, on peut comprendre. Fait que je pense qu'il était juste mal outillé dans mon cas. Je ne parle pas pour les autres, mais juste un manque d'éducation par rapport à qu'est-ce qui peut amplifier ou diminuer l'estime de son enfant. Je pense
C'est fou comme on réalise pas à quel point ça peut te suivre toute ta vie après ça. Hein?
Ouais.
C'est capoté.
Oui, puis tu sais, quand j'écoute les trails de certains, là, du moins dans leur adolescence, je considère que j'ai été chanceux. Tu sais, moi, j'ai été éduqué à l'ancienne, là, c'est-à-dire la fierté. Tu sais, peu importe comment tu es habillé, nous autres, ils nous disaient « attrique-toi comme du monde ».
Moi aussi,
attrique-toi comme du monde », tellement qu'à cette heure, ça a un effet négatif sur moi parce que Je dis à mes enfants, non, t'as un peu. Là,
tu sors pas de même. Là.
Tu sors pas de même, t'as le même linge qu'hier. Là. Mais là, c'est pas grave, il est pas sale.
Mon père était même aussi très fier.
Tu t'attriques comme du monde.
Mais tu sais, Yann.
Là, j'arrive à l'épicerie, puis là, je vois du monde qui font l'épicerie en pyjama, puis là, mon gars, il me regarde en disant, Chris, de vieux bonhomme, tu sais.
Ben, c'est ça, ma fille est allée à l'école en pyjama hier, puis après ça, je l'ai emmenée à l'épicerie, puis elle est encore en pyjama, puis j'ai fait, tu sais, Clara, je me sens. Oh, elle aimerait pas que j'aille dire son prénom, mettons Jocelyne, tiens. Il y a un certain décorum à l'école, tu sais, il y a un certain...
Il y a une base.
Oui, il faut quand même que tu comprends que plus tard, tu ne pourras pas aller travailler habillement. De même, là,
c'est comme la mode, ça, c'est ainsi chez les jeunes tout court aussi. Là,
les pimple
grands...
patch d'en face. Ouais, puis, tout ça.
Coton ouaté. Les culottes coton ouaté.
Qui fit. Les écouteurs.
Puis le petit gilet bodé serré, là.
Ouais. Oh, mon
là, les petites filles, là, c'est comme la mode, ça, au secondaire.
Ouais, ouais. Oui, puis ils ont souvent le haut qui fit avec le bas qui vont attacher croisant en avant.
Là, sont trois amis de filles ou quatre amis de filles qui se tiennent ensemble, les quatre sont habillés pareil.
Ouais. Mais tu sais, Yann, tu dis, j'ai été chanceux, moi, dans l'adolescence, puis tout. Mais tu sais, je pense que l'aspect aussi, je vais dire, du bon Dieu, là, t'es un beau gars de base, là. T'es chanceux, là. Tu comprends?
J'avais l'aspect du bon Dieu.
Non, on n'ira pas là quand même.
Mais je trouvais que c'était bien parti.
Non, mais regarde.
La grâce.
Je suis quand même en train de te dire que tu as un beau visage, là, ce qui est déjà un très gros compliment, prends-le. Mais tu sais, il y en a qui n'ont pas cette chance-là de base.
Ouais,
fait
mais,
que ça ajoute au manque.
Mais ça, tu t'en rends pas compte. T'sais, moi, j'ai pas été victime d'intimidation. Mais
les jeunes,
puis j'ai pas intimidé personne. T'sais, moi, j'ai comme tout le temps passé en deux cracks.
T'sais, moi, il y avait un gars que le monde appelait Crapé-Soleil, là.
Mais dans mes recherches, là, j'ai pu remarquer, en fait, que c'est surtout par rapport au poids en général, la grossophobie. Ouais. C'est le premier motif d'intimidation dans les écoles primaires.
Ça commence
très, très tôt. Écoute, j'ai des choses, là, comme je peux te dire, là, à l'âge de 3 ans, on associe la notion de minceur et les enfants qu'on a testés sont capables de choisir un jouet mince ou un jouet gros pour jouer. Donc, ils vont choisir vers la minceur. C'est-à-dire, si tu leur donnes deux types de figurines, vont automatiquement aller vers la minceur, un peu comme ils avaient fait pour le racisme, où ils choisissaient automatiquement le blanc au lieu du noir. À 4 ans, le désir de minceur chez les filles devient totalement conscient. À 4 ans, et déjà, elles commencent à penser aux modifications qu'elles peuvent faire dans leur vie pour avoir l'air plus mince. À 4 ans.
C'est jeune en tabarnouche.
C'est incroyable, hein?
Tu rentres à maternelle.
Au Québec, 45 % des enfants de 9 ans sont insatisfaits de leur silhouette, puis le tiers des jeunes filles de 9 ans prennent déjà ou auraient déjà pris des mesures pour maigrir.
Tu sais, t'as du gras de bébé, pas possible, je veux dire... Je trouve ça tellement triste, là. On dirait que je me souviens aussi parce que moi, j'ai été très popote plus jeune, là, puis... Tu sais, tu grandis, tu changes, mais ça, tu le sais pas à cet âge-là quand t'es jeune enfant comme ça, là. T'en as aucune idée, là. Et moi, je me souviens, mettons, je voulais pas mettre de chandail plus serré ou d'habits serrés, des jeans, des... Fallait que je sois lousse. J'ai passé, là, toute ma fin primaire, début secondaire, là, avec un gros coton ouaté rose écrit Boston en vert fluo. Je mettais ça pratiquement 5 jours semaine.
Ouais,
parce que là-dedans, moi, j'étais bien, j'avais pas l'impression que personne pouvait me voir, tu sais. C'est fou, là, l'impact psychologique que ça peut créer chez les jeunes.
Est-ce que tu as l'impression que c'est plus courant, ça, de ne pas être bien dans son corps quand tu es une fille versus un garçon?
Mmh. Oui, donc, vraiment.
Moi, chez nous, moi j'ai 2 préfabs, puis j'en ai 2 qui m'appartiennent, qui ont pris 30 secondes à faire, mais ils m'appartiennent quand même. Puis quand on va se baigner, ils ont à peu près le même âge, là, mon plus vieux, puis la plus jeune chez nous. Puis quand on va se baigner, je sens que, tu sais... Josh, lui, il s'en sac, là, il se fout en bobette, puis il va se baigner dans la piscine.
Mm-hmm.
Puis la petite, là, elle garde des fois un gros T-shirt très ample. Elle n'est pas super bien à l'aise avec son changement corporel et tout ça. Puis elle nous en parle pas, puis c'est correct, c'est ses affaires. Mais je me rends compte que ça a l'air un petit peu plus difficile pour les petites filles versus les petits gars. Les petits gars, ils ont comme une tendance à s'en foutre, mais pour le poids, ça, je pourrais pas te le dire.
Mais regarde l'image que tu as quand tu es jeune. T'sais, je veux dire, tout ce que tu vois, les influenceurs. Okay. Ouais. On va se le dire, là, quand t'es jeune, t'es sur TikTok, t'es sur Instagram, t'es sur ces choses-là. Tout ce qu'on pousse, c'est la beauté, les influenceurs. Je m'excuse, là, mais ça va loin. Là. Je regardais les momies rexiques. C'est ça?
Oui, oui, oui.
Les madames là, qui, aux États-Unis comme Beyoncé, Heidi Klum, qui ont eu des enfants et puis qui, quelques semaines après, doivent revenir travailler. Puis là, on leur dit, oh mon Dieu, t'as donc bien une belle silhouette. Comment t'as fait? On dirait que t'as pas eu d'enfants. Toutes ces choses-là, les tutoriels de beauté, les T'sais, tout ce qu'on voit, c'est tout fake, mais sauf qu'à leur âge, eux autres ne sont pas capables de comprendre ça.
Puis c'est plus féminin.
Ils sont nés là-dedans. Ouais. Je veux dire, t'en vois-tu beaucoup, toi, des tutoriels beauté pour hommes? Je veux dire, moi, j'en vois pas tant que ça. Là.
J'en ai jamais vu sur mes algorithmes. Je suis pas toi, Yann.
C'est ça. Fait que, tu sais, tantôt, on parlait des causes de la culture familiale, mais il y a tes traits de caractère aussi. T'sais, ça dépend comment elle est. Là. Ta fille, est-ce qu'elle a un caractère qui est plus fort? Elle a-tu des habiletés sociales? Elle a-tu une personnalité qui va faire en sorte qu'elle va résister peut-être plus facilement au moquerie que les autres, ça, c'en est une autre cause. Puis, bien, le jugement de la société puis les influences médiatiques. Là, je veux dire, on parle de ta fille, mais si on parle des adultes, là, la porno, je veux dire, allô, si pour toi, t'as un pénis qui est de plus petite taille puis que tu visionnes du porno constamment, c'est clair que ça va affecter ton image corporelle puis ton image sexuelle, tu sais. Mm. Ça, c'est clair, net et précis. D'ailleurs, je sais pas si vous savez, mais dans les dernières années, dans les derniers 5 à 6 ans, on remarque une augmentation fulgurante des blanchiments d'anus, j'ai vu des affaires, là, des liposuctions de grandes lèvres chez la femme,
Pour que tout soit symétrique, puis tout soit beau.
Exactement.
Puis,
J'ai bloqué à blanchiment du trou de pète. Ça se fait encore pas mal, ça?
Ben oui, énormément.
Ben oui. Voyons donc.
Quand tu regardes un porno, là, toi, tu vois-tu qu'il y a une décoloration au niveau de l'anus? Non. Tout est beau. Tout est parfait. Tout est
la même couleur. Tout est...
Ça coûte combien, Audrey?
Okay. Là, t'as envie de me forcer à dire si j'ai l'anus blanchi ou pas, et ça me rend inconfortable.
Ben, écoute, moi, je n'ai pas l'anus blanchi, je vais le dire, levons la main, mais je sais ce que ça coûte.
Combien?
Les traitements complets peuvent aller jusqu'autour de 1000 $.
Mais ça
et c'est à maintenir dans le temps, veux pas, parce que c'est comme le blanchiment des dents.
Une souffrance que le calvaire, là. T'sais, moi, je me suis fait tatouer. Là,
non, c'est un produit chimique.
Il y a des places où, c'est pas évident. T'as l'impression qu'il est en train de te transpercer le corps avec un couteau. Fait que j'ose pas imaginer dans le trou de pète ce que ça doit avoir l'air.
C'est sûr qu'un tatouage sur l'anus, ça doit pas être très agréable.
Non, c'est... je pense qu'on s'entend.
Et c'est surtout inutile.
La position dans laquelle tu dois être fort.
J'ai un commentaire de Dave ici, je trouve ça très nice. Il dit « Salut, moi j'étais roux au secondaire. » Il dit « D'ailleurs, je le suis toujours aujourd'hui. » J'en ai pris plein la face dans ma jeunesse parce que j'étais roux. Donc, c'est pas juste le poids. C'est dès que tu entres, pas nécessairement dans le moule, la normalité, entre guillemets. Il dit « Maintenant, je regarde les deux magnifiques filles que j'ai engendrées, rousses aussi. Je suis très fier.
Hey, » tout le monde veut être rousse aujourd'hui. Hey, moi, je paye. Il pourrait être encore plus rousse. Fait que, hein?
Ben, tu sais ce qu'on dit des rousses, hein?
Ah oui. On aime le McDonald's.
Mon oncle.
On aime le McDonald's. On se sent chez nous avec Ronald.
Les impacts de cette fameuse mauvaise image corporelle dans ta vie amoureuse, dans ta vie sexuelle au quotidien, c'est quoi?
C'est assez rough, hein? En fait, c'est assez important, la diminution du plaisir général, parce que, comme je l'ai dit, la bonne estime, ça augmente l'excitation, le désir, la satisfaction générale. Et chez l'homme, ça enlève énormément les chances de troubles de l'éjaculation précoce et de difficultés érectiles. Parce que souvent, quand tu te sens pas bien dans ta tête, puis que ça commence à plus vouloir lever, là, c'est souvent lié à ton estime personnelle. OK?
Yann, t'as-tu des...
Non. C'est quoi la question?
T'as-tu des troubles d'estime personnelle?
Non.
Zéro, t'as super confiance en toi, tu poses pas trop de questions.
Ben, j'ai des crises de défaut, là, que j'aimerais enlever, mais non, j'ai pas de problème d'estime personnelle.
Hey, c'est merveilleux, ça, tu devrais te cloner.
J'admire ça, voyons.
Tu sais, je parlais tantôt avec... on parlait, toi et moi, avec Yvan Martineau tantôt, tu sais, puis... Tu sais, Yvan, il a commencé à faire de la télé à 21 ans.
Ouais.
Puis moi, je me souvenais du jeune Yvan Martineau, tu sais, puis je me dis, tu sais, on change avec le temps, là.
Oui.
Parce que quand je l'ai croisé tantôt, je l'ai croisé l'an passé, je ne l'avais pas reconnu. Puis là, je dis, OK, c'est M. Martineau.
C'est fou, hein?
Mais tu sais, il y a peut-être l'âge. Des fois, je regarde des photos de quand j'avais 25 ans, je me dis, tabarouette, j'étais pas mal plus top shape qu'à l'âge que j'ai là. Il y a peut-être ça, mais c'est pas un complexe. Là,
c'est pas quelque chose qui te pèse. Là.
Non, puis tu sais, plus on vieillit, là, toi, tu connais pas... Ah, excuse-moi, je le dirai plus. Mais plus on vieillit, plus il y a des gens qui décèdent autour de nous.
Oui.
Puis plus on se rend compte que vieillir, c'est une belle opportunité.
Oui.
Fait que quand on se plaint de « Hey, j'ai mal au dos, j'ai mal à une jambe » et tout ça, il y en a d'autres qui peuvent plus vivre aujourd'hui.
Effectivement.
Qui sont malheureusement décédés. Puis plus tu vieillis, plus tu en entends parler. Tu sais, moi, des chums, là, des anciens chums du secondaire qui meurent de crise de cœur. Voyons donc, les boys, est-ce que c'est ce qui s'est passé?
Mm.
Mais c'est ça. Tu sais, j'ai un collègue ici qu'on adorait, Jordan, 30 ans.
Mm.
30 ans.
Tu n'as même pas commencé à vivre à cet âge-là.
Tu sais quoi? Il était gros comme un pic. Là. Il n'était pas obèse, là, mais c'était un problème avec le cœur.
Ouais.
Puis ça, plus tu vieillis, plus tu te rends compte des gens qui tombent au combat autour de toi. Puis là, t'arrêtes de te plaindre peut-être un peu moins.
Oui, effectivement, c'est à prendre en considération. Des fois, on a juste un petit défaut, puis on voit juste ça. Mais la réalité, c'est qu'on est en vie, puis les gens peuvent nous apprécier, nous aimer quand même, tu sais. Sinon, les impacts, bien, plus au niveau sexuel, il y a l'évitement des relations sexuelles. Si tu te sens pas désiré, t'auras comme pas envie de te mettre tout nu, tu sais, on s'entend, puis t'as la peur du rejet. Même si tu aimes ton conjoint depuis des années, ça reste quand même dans ta tête. Et je sais pas, veux-tu estimer le chiffre concernant les nombres de femmes qui refusent de se mettre nues devant leur conjoint en pourcentage?
Qui refusent?
Oui. Complètement nues, là.
Au secondaire, c'était 100%.
J'espère.
Aujourd'hui, je te dirais peut-être 30.
J'ai le goût d'aller à 45.
38.
38?
38 % refusent de se mettre nues devant leur conjoint.
Genre qui veulent fermer la lumière, là.
Oui. Parce qu'ils ont des zones, probablement, qui apprécient moins que d'autres.
Mais
sinon,
ça, en plus,
oui.
Là, il y a un auditeur qui a écrit quelque chose. Parce qu'Audrey, elle disait dans le temps, mon chum me connut, j'avais 40 livres de
ouais.
plus. Il y a un gars qui a écrit quelque chose de vraiment nice.
Qu'est-ce qu'il a écrit?
Il a dit 40 livres de plus, c'est 40 livres de surface supplémentaire à cajoler.
Ah oh, oui, à caresser, mm-hmm. oui.
À caresser.
C'est une belle façon de voir
vraiment,
ça, c'est
oui.
sûr. Mais tu sais, si la personne n'est pas bien dans sa peau, t'auras beau lui dire ça, ça va pas nécessairement être assimilé dans sa tête.
C'est plus là l'affaire, justement.
Fait que si les hommes, vous répétez ça à votre blonde puis qu'elle l'assimile pas, c'est normal. Faut que ça vienne d'elle aussi à un moment donné. Donc, les impacts, ben, ça met le couple en danger, veut pas. Hein. Voir souffrir l'autre, ça veut dire ben, souffrir soi-même, puis ça remet en capacité, ça remet en cause tes capacités de séduction envers ton conjoint, puis ta capacité de mettre l'autre à l'aise pour qu'il se laisse aller. T'sais, tu te dis, ben voyons, mais ça, c'est qu'elle est coincée avec moi, pourtant, et je la mets pas, je mets pas de pression, mais veut pas, ça fait partie des impacts. Et veut pas la capacité de communication, hein, ça l'impacte ça. Les gens qui s'aiment, qui aiment leur corps, vont être plus capables de communiquer ce qu'ils aiment et ce qu'ils veulent à leur conjoint.
Donc, sont à l'aise.
Sont à l'aise, effectivement. Effectivement, fait que ça fait en sorte que c'est plus facile pour eux de naviguer
bon.
À travers la sexualité.
La question qui tue
oui.
maintenant, comment
la réponse est 4.
Comment tu diminues les impacts de cette estime de soi-là, de chnoute? Parce que je pense pas que du jour au lendemain, là, on sera pas de cachette. Il y a personne qui, demain matin, va être mieux dans son corps parce qu'il a claqué des doigts. Là. Généralement, il y a un gros travail à faire. C'est un travail qui est long, puis qui est à entretenir aussi.
Oui, puis la confiance en soi, c'est un des troubles qui demande le plus de temps à soigner, si on veut. Et là, il y a beaucoup de trucs que j'ai. On n'aura peut-être pas le temps de tous les faire. Puis si c'est le cas, je les mettrai en supplément sur ma page YouTube. Mais sachez que d'abord, c'est votre dialogue intérieur. Hein? Développer une image nuancée et bienveillante de soi-même. Là, t'sais, quand je me regarde dans le miroir, c'est tout ce que je trouve à dire, c'est « check-z le double menton, on dirait un coq ». Il faut que je sois capable de me dire « OK, j'ai un double menton peut-être, là, mais de un, ça s'arrange, puis de deux, j'ai d'autres choses à offrir ». Il faut vraiment, vraiment faire attention à comment on se parle dans notre tête parce qu'on y croit, veut pas. OK? La communication, parler à son partenaire, exprimer ses préférences et ses limites pour que l'autre soit au courant de votre complexe. Parce que là, c'est pas lui là, que la position du missionnaire, ça te cœur parce que ton bedon a l'air de couvrir son abdomen au complet, puis ça fait floc à floc à floc. Tu comprends? Il faut que tu le dises parce que lui, il peut pas le savoir. Il voit juste que tu es mal à l'aise. OK? Première chose.
Ouais,
deuxième chose.
Il peut peut-être prendre ça sur lui.
Oui, aussi.
Mais oui, mais c'est ça,
c'est
le danger, là, effectivement, que
ouais.
ça crée le fret, comme tu disais. Là.
Puis en plus, s'il ne sait pas, il ne peut pas te rassurer là-dessus. Ça, c'est important. T'sais, si vous voyez votre conjointe, elle a des complexes en particulier, sans mettre de focus là-dessus, essayez de la rassurer, c'est important. Son point de vue à votre moitié, elle est là pour une raison. Il vous a choisi pour une raison, là, lui, là. Mm-hmm. Ou elle. Là. Elle ne vous a pas choisi ou il ne vous a pas choisi parce que ben, peut-être que vous étiez riche, là, je ne sais pas, mais dans l'idéal. ou peut-être
existe.
Que vous faisiez des bonnes lasagnes. Mais en général, c'est une raison physique. Il y a quelque chose qui nous attire chez l'autre. Il faut se le rappeler. Je ne sais pas si tu as déjà eu, sûrement quand tu as grandi, des gestes contrôlants envers toi-même. Vérifier ton poids, te mesurer, compter tes calories. Voilà. Alors ça, c'est un geste destructeur qui n'aide pas à la confiance en soi. Fiez-vous à vos vêtements. Tu sais, je veux dire, si à un moment donné, tu n'embarques plus dans tes pantalons, c'est parce que c'est passé quelque chose quelque part, donc t'arrêtes les biscuits, tu sais. Mm. Mais tu n'es pas obligé de te peser tous les matins parce que c'est un comportement qui est destructeur.
Mais c'est excessif. C'est parce qu'à un moment donné, tu te fies juste là-dessus.
Je ne sais pas, Mademoiselle V, si tu as connu cette époque-là, mais je me souviens d'une époque où moi, j'ai vu ma mère faire ça. Se mettre ses jeans. Puis pour ce qui est de les mettre, là, c'était tellement compliqué qu'elle devait se coucher sur le lit.
Ouais.
Oh non!
Puis après ça...
Utiliser un cintre, non?
Bouger d'un bord, de l'autre, bouger d'un bord, de l'autre. Puis après ça, ils réussissaient à mettre leurs jeans.
Dans ce temps-là, va t'acheter une paire qui te fait. Non, mais ça, c'est l'autre affaire.
C'était la mode. Il fallait que ce soit le plus simple possible.
C'est des jeans, ça slack durant la journée. Hein, fait qu'à la fin de la journée, t'es correct.
Tu prenais un verre d'eau, tu ne peux plus mettre tes jeans, là.
Ah, oh, mon Dieu, c'est désagréable.
Il n'y avait plus d'espace.
Oui, il zippait ça avec un cintre.
Oui, mais en fait, moi, je me souviens avec une fourchette.
Oui, aussi.
Il mettait ça, il mettait la fourchette dans le zipper, puis il essayait de... puis il montait ça jusqu'en haut.
C'est fou, voyons donc. Moi, ça, tu vois, ça a été un apprentissage. Là, tu parlais de réseaux sociaux tantôt, mais je me souviens que nous autres, là, la grandeur qu'on avait sur notre chandail et nos pantalons, là, ça déterminait si t'étais gros ou pas. Là, tu comprends?
Ben, c'est
ça. On prenait pas compte de si tu étais 6 pieds ou si t'es 4 pieds. Là. C'est toi, si tu portes du médium ou du large dans la vie, c'est parce que t'es gros, tu comprends? Puis je me souviens que longtemps, là, hey, j'essayais de rentrer dans du small ou du... Puis à un moment donné, là, j'avais vu une vidéo se promener sur les réseaux sociaux qui disait « Arrange-toi donc juste pour être bien. Si tu décides que tu mets du XX large parce que toi, t'aimes quand ton coton ouaté, tu comprends, il t'arrive aux genoux, arrête de toujours essayer de mettre ça par une quantité...
Non, les chiffres servent à rien. Honnêtement, là, moi, si je commande sur un site asiatique, je porte du genre 48 X large.
C'est tellement drôle que tu dises ça. Il y a une couple de... Tu sais, Yann, les manteaux super propres, là, les trench coats un peu pour hommes là, qui look, tu sais, qui... Hey, mon chum a voulu se commander ça il y a une couple de mois, OK?
Un trench coat?
Un trench coat, tu sais, c'est quoi? Les manteaux propres pour hommes.
C'est là, il y a des boutons. Ce que t'imagines, là.
Parce que les trench coats, c'était pas ça, là. C'était des manteaux de pédophiles des années 80.
Ouais, ça peut sonner
avec
comme
un chapeau sur la tête, puis des lunettes fumées.
Un manteau propre, style homme d'affaires, un peu, là.
Ouais, on va l'appeler de même, d'abord. Moi, j'ai plein de trench coats, là. Mais oui, un manteau propre en feutre, genre, là.
En laine, un peu, comme.
Ouais. Il voulait se commander ça, OK?
Ouais.
Parce que là, il écoutait Peaky Blinder, là, puis là, il y avait Blinders, ben voilà, là, puis okay. Ils ont tous ces manteaux-là.
Toi, tu parles
là,
comme ça, là?
Oui, genre. Là, ah, c'est okay. Ça, OK? Comme les dans Peaky Blinders.
Fait c'est
là,
vraiment
il,
beau, ça.
Vraiment. Il se commande ça sur un site qui semble pas trop louche. Là, tu sais, on fait nos recherches, on va dans le « à propos », on lit, puis tout.
Finalement, ça fait à ton chien, genre?
Non, mais il a commandé genre un XL, je pense, pour être sûr, parce qu'il voulait pouvoir mettre des laines en dessous, puis des... Et hey, cette affaire-là, là, si c'est du X small, c'est beau. Là.
Ah, je te jure.
Il y avait de la misère à rentrer un bras, puis on s'est rendu compte que c'est un site, pas un site asiatique, mais qu'il fabriquait, je sais pas où, dans quelle région, là, mais je veux dire, définitivement, on n'a pas les mêmes chartes de grandeur.
En Éthiopie.
Et hey, sérieusement, là, là, il a fallu, tu comprends, ça nous a coûté genre 150$, là. Puis il peut pas le porter. Là.
Non.
Je trouve quelqu'un de très mince.
Non, non, non,
pour
c'est
lui
un X large, mais je te jure, son bras de la misère à rentrer dedans. Là.
Donne ça à la rouche.
Ben là, même la rouge, je sais pas s'il rentre dedans. Je pourrais y amener.
Peut-être pas son style, c'est pas.
Ben, il faudrait
sinon,
que
Denis,
ça devienne
il y a des
son
enfants.
Style. Oui. Ouais, là, ça pourrait peut-être potentiellement faire.
Va aller à une petite de petite taille.
Oui, c'est ça.
Focusser sur le moment présent. Hein? Arrêtez d'essayer de visualiser votre corps dans l'acte, là. Moi, ça, si je fais ça, là, puis j'embarque dans ma tête, là, je me mets à imaginer toutes sortes de choses horribles. Vaut mieux ne pas y penser, OK? Focalisez plutôt sur vos cinq sens, là, l'odeur, l'ambiance, le goût, la température, le chaud, le froid sur la peau. Les cinq sens, tu sais, parce qu'il faut que tu libères ta tête pour avoir du plaisir. Si tu la libères pas, c'est pouet-pouet, OK?
Bon,
autant pour les hommes que pour les femmes. Ensuite, un autre truc, miroir, dis-moi qui est la plus belle. Hein? On dit ça à toutes les psychologues et les thérapeutes ont déjà utilisé ce truc-là pour augmenter la confiance de leurs clients. D'ailleurs, je vous le assimilez-le au quotidien. C'est de vous regarder dans le miroir tous les jours et de sortir minimum deux qualités physiques et psychologiques. Et c'est d'assimiler ce comportement-là jusqu'à temps que ça devienne une habitude pour chaque matin.
Ils font ça avec les enfants?
Oui.
Genre, t'es beau, t'es bon, t'es capable, là?
T'es capable de te convaincre toi-même de ça, je te jure.
Moi, à un moment donné, il y a quelqu'un qui m'avait ajouté, là, ils peuvent plus le faire, là, mais il y avait quelqu'un qui m'avait ajouté sur un genre de site où les gens, c'était comme, c'était des genres d'échangistes, là, quelque chose du genre de ce que je comprends, puis ils mettaient des photos d'eux-mêmes, puis il y avait des gars qui mettaient des photos d'eux-mêmes, puis des filles qui mettaient des photos d'eux-mêmes, puis c'est visiblement, là, ces gens-là étaient en surpoids, Puis il y a des gens qui aimaient leur dire « Wow, tu as vraiment un beau corps et tout ça. » Puis visiblement, ça l'encourageait ces gens-là à continuer de le faire.
Mm-hmm.
Fait que tu sais, si dans la vie, tu te fais pas complimenter, ben ce genre de personnes-là qui aiment toutes les sortes de corps peuvent t'aider des fois à te sentir mieux dans ta peau par, de par leurs commentaires. Je sais pas si je suis encore là-dessus, mais je me souviens d'avoir vu passer ça sur Facebook. Je trouvais ça génial.
C'est vraiment une bonne idée. Mais on réalise pas des fois à quel point...
Je trouve ça dégueulasse quand c'est des gars, là. Mais pour les filles, là, je trouvais ça cool.
Mais c'est qu'on réalise pas à quel point ça peut faire une différence dans la journée de quelqu'un.
Ouais.
Mais
je sais pas si vous connaissez là, la danseuse sur Instagram. Elle a un bon 400 livres, mais elle danse comme une étoile.
Eh non!
Ah, c'est incroyable. Elle est allée à America's Got Talent, ouais, je crois. Et écoute, ce qu'elle fait, c'est incroyable. Elle pirouette dans les airs comme si elle pesait 50 livres. C'est merveilleux à voir. Elle a de l'énergie. Puis tu sais, les réseaux sociaux l'ont encouragée tellement qu'aujourd'hui, elle est rendue millionnaire de
mais
ça.
Y a des gars,
c'est génial.
Il y a des gars qui aiment les courbes.
Absolument.
Oui, mais oui.
Et toutes sortes de courbes, autant des courbes légères
que des
courbes
qui aiment
les
grosses
très prononcées. Oui, oui.
Moi, au secondaire, là, c'était pomme. De mémoire, là, la mode, là, c'était les petites fesses puis les gros totons.
Ouais.
Oh,
là, après
ouais,
ça,
c'est
plus,
démesuré, ça.
Plus les gars ont vieilli, plus ça a comme changé. Là, il faut que ça soit proportionnel.
Ouais.
C'est ce que j'entendais régulièrement. Puis à un moment donné, la mode des Kardashians que tu parlais
voilà,
tantôt est arrivée.
Ouais.
Puis là, les gars disaient « Ouais, les filles avaient des grosses fesses.
Ouais. »
Fait que, tu sais, il y a toutes sortes de monde.
Et qu'on
mais je peux te poser une question,
hein?
Yann?
Oui.
Toi, en tant qu'homme, là...
Faut que ça soit proportionnel.
Est-ce que, quand tu regardes Kim Kardashian, est-ce que tu es conscient que c'est quelque chose qu'on ne peut pas arriver à faire seul?
Ben, je conscient
sans
de
la
ça,
chirurgie et les interventions comme ça, ou si c'est quelque chose que tu te dis, ça, c'est quelque chose qu'une fille peut atteindre comme idéal, mettons? Parce que nous, on le voit, ça. Nous, on s'en rend compte que la fille, elle peut pas avoir des hanches de 14 places de large.
Moi, j'ai vu à Vegas avec mes chums, là, si ils m'écoutent, ils vont rire, là. Mais j'ai vu l'impact que ça faisait des prothèses fesses auprès des gars à Vegas, là. Puis les deux filles, c'était genre deux... Les deux filles, c'était soit deux, les deux meilleures amies qui se ressemblaient aux, doigts, aux deux sœurs jumelles qui avaient eu la même opération aux fesses. Mais c'était vraiment démesuré. Puis nous autres, on était en arrière, puis on riait juste de voir la réaction des gars qui croisaient parce que tous les gars se reviraient.
Ouais.
Voyons.
Pour regarder les fesses des filles. Puis quand j'étais... je voyage souvent tout seul, là. Des fois, je vais à Cancun tout seul, tu sais. Puis là, je couchais sur la plage, puis là, j'observe. J'ai juste ça à faire, me mairer. Puis à un moment donné, j'ai vu une fille qui avait eu l'opération avec les fameuses prothèses là, aux fesses, puis elle était assise sur le côté, puis elle avait quasiment la prothèse dans le dos.
Ouais.
Je me suis dit, hein?
Pas toujours bien.
Pas cute.
C'est donc bien laid.
Ouais.
Puis tu sais, pauvre petite, là, elle a fait ça pour pouvoir peut-être un peu plus s'apprécier, mais non, c'est pas mon modèle idéal. Là. Moi, j'aime ça quand c'est naturel, puis avec des fonds.
Parce qu'il y en a qui grandissent, tu sais, sur les réseaux sociaux aujourd'hui, qui ont comme l'impression que c'est une beauté.
C'est
typique,
ouais.
Ils naissent comme ça. Puis,
ouais.
Mais tu sais, sachez que ça prend des milliers de dollars en chirurgie esthétique,
ouais,
pour ressembler à ça.
Je suis un peu moins prothèse-fesse, là, mais prothèse mammaire, j'ai pas de trouble avec ça, mais c'est correct.
C'est le fun quand ça regarde au ciel. Je suis d'accord avec toi.
Je trouve que c'est un bon investissement.
Oui, mais c'est-tu pareil au feeling?
Non.
Ben, pas au départ.
Non.
Pour départ.
Maintenant, ça s'ajuste.
Après ça, ça s'ajuste, puis ça devient aussi joli qu'avant, là. Mais parce qu'il y a des fibres mammaires qui commencent à reprendre place par-dessus la prothèse. Fait que la texture n'est plus la même que quand elle vient de se le faire faire.
Ça m'a l'air
quand la fille vient de se faire faire ses seins, c'est quasiment une tablette. Là. Tu peux poser ta bière dessus. Des beaucerons qui seraient bien contents. Là. tu peux poser ta bière dessus, ça bouge pas. Pas en tout, mais après...
C'est enflé pendant un an.
Après quelques années,
ouais,
les fibres mammaires commencent à reprendre leur place, puis ça ressemble à des seins naturels.
Mm. Oui, puis tu as plusieurs types d'implants mammaires aussi. Là, t'en as des plus réels que d'autres. Il y en a,
ouais,
qui veulent vraiment l'effet plastique. Il y en a d'autres qui veulent avoir plus un galbe vers le bas, puis tu sais, je pense que c'est ce qui donne l'allure naturelle.
Il y a les grosseurs aussi. Il y a des filles qui restent dans le A, dans le B, il y en a qui vont dans le C. Quand ça se ramasse dans le D, dans le E, puis tout ça, là, la fille, quand t'es couchée sur le côté, là, tu vois que ça déborde d'un bord. Je suis pas sûr qu'elle est super à l'aise. Là.
Mais tu sais, il y en a qui souffrent de ce qu'on appelle la dysmorphophobie.
Ouais.
Je sais pas si vous savez ce que c'est.
La
Je vais terminer avec ça. La dysmorphophobie, c'est quand tu te vois déformé par rapport aux autres. Bon, par exemple, tu vas avoir une fille de 100 livres, elle va se regarder dans la glace, puis elle va dire « ben moi, je suis obèse ». OK.
Ou, ouais, ça vient avec des troubles alimentaires souvent, ça.
Oui, mais aussi d'autres aspects, comme par exemple un homme qui va se regarder et qui va dire j'ai pas de muscles, alors qu'en réalité, il est juste bien normal, sa musculature est standard. Donc, ça s'appelle la dysmorphophobie et c'est quelque chose pour lequel beaucoup de duquel beaucoup de gens souffrent. Donc, si vous pensez que votre image corporelle et votre estime de vous-même est complètement déformée puis que ça vous empêche d'avoir des relations sexuelles ou d'avoir une vie amoureuse ou une vie intime, consultez, s'il vous plaît. Hein? Allez voir que ce soit un thérapeute, un psychologue, un conseiller en sexologie, un sexologue, peu importe, mais faites-vous aider parce que c'est un parcours qui est long, c'est un long voyage, mais c'est un voyage nécessaire parce que je vous jure qu'au bout de la ligne, vous allez être encore plus content que vous seriez à Cancun.
C'est fou comme on s'en fait. Hein? On a quoi, genre 100 ans sur Terre, mettons, si t'es vraiment chanceux, 80 si tu l'es pas. Puis on s'en fait avec des banalités de même. Moi, ça me fait capoter des fois de penser
c'est
à
Internet,
ça.
C'est Internet, c'est
hey, Internet. On est debout, on a la chance d'être en santé, de pouvoir courir, faire ce qu'on veut, là.
Mais nos grands-parents ne stressaient pas de même non plus.
Non, c'est ça. Mademoiselle V, c'est toujours un plaisir. Oui. Pour les gens qui veulent te faire affaire avec toi, on te rencontre à quel endroit?
On regarde sur Google. Google. Il n'aime pas ça quand je dis Google.
Google.
Mademoiselle V, sexologie. Regardez ça sur Google, là, mais honnêtement, très bientôt, le site s'en vient, je pense, la semaine prochaine. Fait que j'ai hâte de vous montrer.
C'est toujours un plaisir de te jaser chaque semaine. Puis on se rejase vendredi prochain.
Si, bien certain. Salut. À vendredi.
Bye bye.
Le garage à Dan Goron a fait bien du ménage pour vous.